Parlons sport sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de sport. Hein, 1h30 ensemble pour parler. Bon, on va parler de ski alpin. Pas de ski de fond parce que c'est pas leur spécialité. Mais si, on pourra éventuellement dévier. Mais en tout cas, c'est le ski alpin, la spécialité du ski club de Carpentras. Je vais présenter notre invité en premier aujourd'hui. Donc, c'est Yves Pélissier, vice-président du club. Bonsoir Yves.
Bonsoir Lionel. Bonsoir Valérie.
On est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Surtout que la saison de ski va bientôt débuter.
Tout à fait, oui. Nous débutons donc vendredi 9 novembre par notre Assemblée Générale. À la suite de cela, il y aura bien sûr la traditionnelle bourse au ski.
On en parlera parce que voilà. C'est vraiment quelque chose aussi important que la foire de la Saint-Siffrin. Non, c'est une institution.
Pas aussi importante, parce que ça fait que 40 ans qu'elle existe, mais la foire de Saint-Siffrin, ça fait à peu près 500 ans. Quoi.
Un peu moins, mais presque.
Presque, oui. Voilà. Non, mais c'est quelque chose d'important pour l'association qui ces jours-là, engrange de la trésorerie pour pouvoir pratiquer des skis à des coûts assez faibles. Voilà.
C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment un des clubs les moins chers. Et ça, c'est important de noter parce que cette année, il y a beaucoup d'associations qui ont augmenté les tarifs. Normal, les aides sont de moins en moins importantes. Mais bon, on reviendra là-dessus avec mes deux animateurs, mes deux colistiers. Valérie, salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Tu vas bien ?
Bonsoir. Voilà, bonsoir Yves, il allait au micro. Bonsoir Yves.
Bonsoir Valérie.
Ça va Valérie ?
Ça va très bien.
T'as pas eu trop froid hier au match ?
Non, pas du tout. Il a même fait chaud.
Il a fait chaud.
Ah oui, on était bien.
Bon. Et Jean-Yves, salut Jean-Yves.
Salut Lionel, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Ça va Jean-Yves, toi aussi, c'était bon ? Parce que je te vois avec l'écharpe, alors j'ai eu peur tout à l'heure que tu aies attrapé froid.
C'est l'hiver, ça y est.
Ça y est, c'est l'hiver. C'est l'hiver. T'as mis les chaussettes.
C'est l'hiver, les chaussettes, la barbe qui pousse, l'écharpe, et dans 15 jours, j'ai le bonnet.
Ah, je croyais que tu allais faire le Père Noël.
Mais presque. Ça peut.
Alors, on va changer un petit peu l'ordre de l'émission parce que Yves a un impératif ce soir et bien sûr on va le libérer. Déjà, c'est très sympa d'être venu pour participer à l'émission hein, parce qu'ils sont tous bénévoles dans les associations. Donc, il faut se donner du temps. Ils viennent, ils font l'effort de venir. Donc, on te libérera au plus tard à 21h comme on avait dit.
Pas de souci, pas de souci.
Pas de souci, hein. Non, 19h30. Donc, les résultats, on les donnera en dernière partie d'émission. Et avant de te donner la parole, il y a... En regardant un petit peu les réseaux sociaux, il y a un cas qui m'a bouleversé, vraiment bouleversé cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez deux enfants qui s'appellent Hugo et Emma. En fait, ce sont des enfants qui souffrent d'une maladie rare. Elle s'appelle la maladie Sanfilippo type B. C'est une maladie génétique neurodégénérative rarissime qui détruit rapidement et de manière irrémédiable leur cerveau. Voilà. Leurs parents donc se battent depuis longtemps. Ils ont ouvert une cagnotte. La cagnotte est très élevée, 4 millions d'euros. Là, ils sont en train de se battre depuis le 12 juillet dernier, justement, pour récolter cette somme. Aujourd'hui, j'ai regardé sur leur cagnotte. Hein, je mettrai bien sûr tout le lien sur le podcast. Ils sont à peu près à 1 093 000 euros. Hein, exactement 1 092 980. On est encore très très loin des 4 millions d'euros. On a la chance d'avoir un joueur de football, parce que c'est vrai qu'on critique toujours les joueurs de football. Ben là, il y en a un qui a participé et qui a mis une somme non négligeable dans la balance. Il s'appelle Alphonse Areola. Je crois que tu le connais.
Areola, l'ancien gardien de Bastia, actuel gardien du Paris Saint-Germain et un peu champion du monde d'ailleurs.
Et tout à fait. Il est champion du monde de football. Et voilà, il a participé avec sa femme justement pour aider cette famille qui est vraiment dans le besoin. Et donc, bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est 4 millions d'euros, c'est pour permettre justement à ce que les enfants puissent subir un vaccin. C'est un test. Parce qu'aucun médicament contre cette maladie existe. Hein, aucun traitement. Seul justement ce vaccin, parce que sinon la mort est irrémédiable.
Mais 4 millions pour un vaccin, enfin pour deux vaccins, ça fait un peu élevé. Hein.
C'est très très élevé parce qu'en fait, il y a déjà eu des cas similaires. Il y a eu des enfants qui ont été vaccinés justement, 4 enfants qui avaient été touchés par cette maladie, qui ont eu ce vaccin. Et leur état s'est amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas guérir. Mmh. Ce médicament va leur permettre de vivre. tout simplement. Parce que justement, à l'heure actuelle, comme me disait Madame Mercier, Alicia, la maman des enfants, le médecin qui a posé le diagnostic nous a dit de profiter de la vie et de créer des souvenirs. Mais pour nous, ce n'était pas possible de se résigner. Voilà ce qu'elle a dit. Et elle a raison. Ces deux enfants, en plus, c'est les deux, c'est le frère et la sœur, quoi.
Ouais.
C'est vrai que quand t'es un enfant dans une famille, c'est vraiment traumatisant. Mais là, ce sont les deux enfants. Mmh. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, il faut savoir qu'après une vingtaine d'années de recherche, il y a un médicament de thérapie génique sous la forme d'une injection intercérébrale. Donc déjà, c'est a été testé donc sur les quatre enfants dont j'ai parlé tout à l'heure avec un certain succès. Alors comme disait le professeur Tardieu, nos résultats ont été publiés donc dans la revue. Les enfants qui ont reçu ce vecteur de thérapie génique, en rendant les détails, l'ADN manquant vont bien et on compare leur état à celui qu'induit l'évolution naturelle de la maladie. C'est-à-dire que la maladie n'accélère plus et ça stabilise. Voilà, malheureusement, ils ne sont pas guéris, mais en tout cas, ça les stabilise. Il y avait eu un premier essai qui avait été fait sur ces enfants-là et qui avait été subventionné. Le deuxième essai ne trouve pas de financement, malheureusement, contrairement au premier. Lors du premier, nous avions, ça c'est le professeur Tardieu qui parle, nous avions été financés pour notre premier essai à hauteur de 50% par le Téléthon et à hauteur de 50% par l'Institut Pasteur et l'université. Et malheureusement, cette année, il n'y a pas. Donc, la fondation de Téléthon a jusqu'ici tenu le projet à bout de bras en payant la société néerlandaise, que c'est une société néerlandaise Unicure qui développe justement ce vaccin. Mais vu que c'est un vaccin très coûteux et très peu rentable, ils ont décidé donc de rien faire, d'arrêter s'il n'y avait pas justement ces 4 millions d'euros. Il y a une polémique justement sur le Téléthon par rapport à ça, malgré que le Téléthon, pour la première premier vaccin, ils avaient aidé à hauteur de 50%. Là, pour l'instant, il y a zéro euro. Donc, les parents ont décidé donc de réunir les fonds par leurs propres moyens. Un état de fait qui révolte la mère d'Hugo parce que ils se sentent totalement abandonnés. Et ça, je veux bien les croire. Comme elle disait, on se retrouve à mendier de l'argent, à aller pleurer auprès des gens. Et si l'AMF Téléthon était là pour nous soutenir, on n'en serait pas là.
Enfin, il n'y a pas que l'AMF Téléthon. Excuse-moi, je voudrais intervenir, mais c'est un avis personnel, vraiment. Je trouve quand même scandaleux, mais alors scandaleux, qu'un vaccin soit aussi cher pour sauver deux vies. Mais deux enfants, mais c'est une honte. Moi, ça me répugne. Bon, je suis maman, d'accord, mais ça me répugne effectivement que des parents voient leurs enfants mourir petit à petit parce que encore une histoire de sous. Voilà, c'est tout.
C'est effectivement qu'une histoire de sous parce que quand on lit un petit peu l'article, donc c'était l'AMF Téléthon, comme je disais, qui tenait le projet à bout de bras en payant la société néerlandaise Unicure pour qu'elle développe ce très coûteux vecteur de thérapie génique et Unicure qui devait prendre le relais de l'Institut Pasteur en investissant dans le développement du médicament, s'est retiré du projet, finalement jugé trop peu lucratif. Trop peu lucratif. Vous vous rendez compte un petit peu ?
Il n'y a pas assez de cas, excuse-moi. C'est parce qu'il n'y a pas assez de cas, voilà. Maladie plus ou moins orpheline, il n'y a pas assez de cas, ça ne rapporte pas, donc on ne fait pas, donc on ne sauve pas des vies.
Voilà, et donc c'est une somme minimale de 4 millions. Ça, c'est l'Institut Pasteur qui a estimé ce coût. Donc, ils sont partis sur cette estimation de coût. Cette dépense correspond au fonds nécessaire pour payer le rachat du vecteur et la surveillance de l'essai. Donc, ça, c'est le professeur Tardieu qui le précise. Donc, voilà, si vous souhaitez contribuer, même à petite échelle, mais vous savez, les petits ruisseaux font des grands cours d'eau et même font des grandes rivières. Donc, c'est sur helloasso.com. Je mettrai le lien et j'invite tout le monde à aller consulter, à participer. Donc là, j'ai vraiment été synthétique pour éviter justement de vous noyer dans trop d'informations. Déjà, il y a eu pas mal d'informations, mais c'est bien expliqué dans cette aide participative. Et vraiment un grand grand merci donc au footballeur Alphonse Areola qui avec sa femme ont participé justement à financer une partie de cette somme. Voilà, on est à l'heure actuelle à 1 092 980 euros et il manque encore jusqu'à pour arriver à 4 millions.
Et tu vois, je rebondis, après j'arrêterai parce que c'est un peu polémique. J'ai lu tout à l'heure que Mbappé, c'est le joueur le plus cher du monde, 250 et quelques millions d'euros. Et là, on parle de 2 millions d'euros, enfin 4 millions d'euros en tout, pour sauver deux enfants. Donc ça laisse un peu dubitatif.
Et le pire, c'est que si ces 4 millions ne sont pas trouvés, ces enfants vont mourir.
Bah oui,
c'est clairement. Ça. Voilà, donc... On devrait vraiment se... Bah déjà, oui, pourquoi pas taxer le football, par exemple, taxer les grands revenus pour aider. Ce sont des enfants qui sont tout jeunes. Hein. Pour dire leur âge, ils sont âgés de 3 ans pour le plus vieux et de 1 an.
Ouais.
Voilà. Donc, une petite somme pourrait permettre justement d'arriver à ces 4 millions. Voilà, bon, c'était mon petit appel. Hein. Si vous souhaitez aller, je vous mettrai tous les liens, toutes les informations justement pour avoir tous les renseignements sur cette maladie, sur Hugo et Emma, qu'on soutient de tout le cœur. Et en tout cas, la radio RTVFM essaie de faire le relais. Je sais qu'Alain a fait le relais la semaine dernière. Voilà, donc on essaie de les soutenir par la voix des médias. Donc si vous nous écoutez, allez faire un tour sur... je mettrai toutes les informations sur le podcast. Voilà, on va... changer, parler de sujets un petit peu plus souriants, le ski, parce que c'est vrai que il commence à faire froid. Il y a eu de la neige au Mont Ventoux, Yves. Je sais pas si tu as été voir.
Oui, il y a eu de la neige, effectivement, à peu près 10 cm au sommet.
Mmh.
C'est très bien. C'est de bon augure, ça a tout fondu, bien sûr, mais si le froid persiste, enfin si le froid arrive assez rapidement et que la neige se revient, ça serait chouette aussi pour tous les gens du bassin du Ventoux.
Alors, ce que je te propose, avant de rentrer dans le détail justement du ski, on fait une petite pause, hein, parce que je vois que l'heure avance vite, vite, et que notre technicien Florian, que je salue, que je n'ai pas salué en début d'émission, c'est un péché, c'est lui. Attends. Bon, après, il ne veut pas mettre mes musiques. Quoi qu'il m'a dit, il fera un effort pour les choisir. Il va mettre les musiques, pareil. Allez, à tout de suite.
Fayot.
It's gonna be okay.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, nous sommes de retour dans le studio. Florian, j'ai pas de retour, c'est normal ?
Moi aussi.
Ouais, bah moi je aussi. M'entends pas.
Bon, non, t'entends bien.
La question qu'on se posait, c'est Martin Garrix que tu as en inquiété ?
Non.
Non, ça... donc Valérie, non.
Ah, si je peux t'aider, c'est Robin Schulz.
Merci.
Okay. Bien,
là, c'est pas notre génération, on est trop vieux. Nous. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes.
Sympa, Robin Schulz.
C'est pas mal. Hein. Parce que toi, cette fois-ci, c'est mes choix de musique. Et la semaine dernière, c'est les choix de Florian.
Ouais. La semaine prochaine, c'est Valérie avec Annie Cordy et...
Merci.
Et Joe Dassin.
Et Michel Thor.
Ah, Joe Dassin, oui, à la rigueur. Michel Thor, non.
Et Johnny.
Annie Cordy, moi, bah, fois, quand on était petit, on chantait ses chansons. Hein.
C'est vrai, Frida ou papa.
Bon. Valérie, t'as fait du ski ?
Moi, j'en ai déjà fait, mais bon, je suis pas trop bonne skieuse, moi.
Mais tu fais quoi, du alpin, fond ?
Oui, alpin. À fond, j'ai jamais essayé.
Ah ouais ?
Non.
Et toi, Jean-Yves ?
Moi, je skiche.
Ouais.
C'est-à-dire je skie comme une quiche. C'est, je skiche.
Donc t'es mauvais quoi.
Mais ça passe. Ça passe toujours. Ça
tu commences debout, tu termines assis.
Non, ça passe toujours. Mais bon, des fois c'est un peu artistique, mais ça descend toujours et donc, ça arrive toujours là où ça doit arriver.
Moi je fais pareil que toi, alors je skiche alors.
Ouais, c'est... je skiche moi. C'est...
Je connaissais pas.
Non,
cette
ça passe pas tout le temps crème, mais ça passe. Je peux aller à peu près partout.
Tu tiens sur tes jambes.
C'est pas super académique, par contre.
Ça me fait parler un petit peu, tu sais, penser aux Parisiens qui pensent pouvoir bien skier et qui arrivent sur une station de ski, qui prennent la piste noire dès le début.
Il faut pas dire du mal des Parisiens.
Ouais. Non, pas du tout. Non, mais ceux du Nord.
Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui, des fois, surestiment leur capacité et puis sont assez surpris de rencontrer des difficultés assez rapidement, hein, sur les pistes.
Parce que je vois qu'on a deux novices. Hein. Oui. Toi, tu es de la montagne, moi aussi. Au niveau des pistes, il y a des classifications. Au niveau des pistes, des difficultés qu'on fait au moins.
Bien sûr.
Vert, bleu, rouge, noir. Hein, dans l'ordre.
Wow. C'est pas comme les ceintures au judo, il n'y a pas marron ?
Non.
Non.
Ne me provoque pas.
Et donc, plus tu montes, plus tu vas vers la noire ?
C'est ça, tu commences sur la verte, la bleue ensuite, la rouge ça commence à piquer un peu,
non,
et la noire
ça.
Ça pique beaucoup.
C'est quand tu prends les télésièges.
En
donc,
général.
Plus tu vas en hauteur, plus
en
tu
général,
vas...
Non, pas forcément. Justement.
Pas forcément. Les pistes noires ne sont pas forcément plus haut en altitude que les autres pistes.
C'est ce que je voulais demander.
Elles sont travaillées différemment.
Elles sont travaillées différemment. C'est le lieu qui est difficile. C'est la particularité, pardon, de l'emplacement de la piste.
Mais c'est qui est dur, en fait ? C'est l'inclinaison de la piste, les
bosses, la largeur, les bosses, tout à fait. C'est un ensemble qui font qu'elle est classée noire parce que il y a déjà une inclinaison un peu plus abrupte que la piste rouge. Et puis, c'est vrai que les pistes noires, pas beaucoup sont damées, sont pas souvent damées du tout même, je dirais. Tu vois.
Par rapport à la dangerosité,
par rapport à la faisabilité des dameuses.
Par rapport, et puis il faut bien que ça se justifie qu'elle soit noire, au moins comme ça, quand tu t'y engages, tu sais que tu vas galérer.
Mais après, aussi. Tu risques de rentrer dans du hors-piste si c'est pas damé. C'est quoi la différence entre une piste noire et du hors-piste alors ?
Alors la piste noire est balisée, c'est-à-dire que latéralement elle est balisée, tu es sur le domaine skiable, donc tu es assuré. Pour éventuellement, si tu te fais mal, tu peux être secouru, d'une part. Bon, tu l'es effectivement en hors-piste aussi, secouru. Mais d'un principe général, tu es sur la piste de la station. Voilà.
Parce que c'est vrai que de plus en plus, on voit des faits divers avec des jeunes qui veulent faire du hors-piste. T'en penses quoi de cette histoire de hors-piste ?
Alors, c'est difficile en tant que vice-président, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Non, mais tu peux parler en tant que skieur.
Non, mais c'est vrai que nous, la fédération, le comité régional, nous interdit d'amener les gens en hors-piste. C'est même 50 cm au-delà de la balise de la piste, c'est du hors-piste et on n'a pas le droit. Voilà.
Mais il y a pourtant des moniteurs qui amènent des
skieurs.
Alors,
des moniteurs diplômés d'État, bien sûr, ils ont le droit, ils ont la capacité à le faire. Nous, on n'a pas la capacité.
Et vous êtes quoi comme qualification ?
Nous, dans notre association, il y a quelques années, il y avait des moniteurs fédéraux. Ils n'exercent plus parce qu'ils ont quitté le club. Cette année, il y en a un autre qui va repasser un MF1, c'est-à-dire un moniteur fédéral 1. Peut-être il y en aura deux. Pour éventuellement encadrer les gens, mais sur les pistes. quand on a des nouveaux adhérents qui arrivent, lors d'une première sortie, on les encadre dans la station pour leur faire voir, pour leur démontrer ce que nous faisons. On fait pas de la compétition, on fait du ski loisir. Donc, on peut pas aussi laisser des gens seuls qui sont pas forcément trop habitués à pratiquer les stations, à comprendre un petit peu le cheminement des remontées, etc. Donc, on peut les accompagner si on est MF1. Voilà.
Et là, on parle, c'est vrai que bon, on est dans le Vaucluse, il y a le Mont Ventoux. Toi, tu l'as connue ouverte, la station
bien
du Mont Ventoux.
Bien sûr.
Il y a combien de pistes là-bas ?
Il y a 8 pistes.
C'est quand même pas mal.
Oui, oui, tout à fait.
Bon, après, quand c'est le week-end, ça risque de faire
alors,
des bouchons.
Il y a 8 pistes, mais avec du matériel qui date de 1960 à peu près, un truc comme ça, ou 70.
Donc ça veut dire que ça tombe régulièrement en panne ?
C'est assez souvent en panne, c'est très lent au niveau débit. Alors, les quelques fois où il y a eu de la neige suffisamment pour ouvrir tout le domaine, eh bien, c'est vrai que tu fais plus d'attente pour prendre le téléski que pour descendre la piste, en fait.
Et sinon, là-bas, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, donc c'est le Ventoux, donc c'est
alors,
il y a le Mont-Serein. Mmh. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des pistes côté chez les Rénards.
J'ai juste skié au chalet Rénard il y a une vingtaine d'années, 25 ans peut-être.
Sur les fesses ?
Non, mais c'est pas. Le chalet Rénard, c'est familial, on va dire. Mmh. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas vraiment de difficultés côté sud, on va dire. Il y a très peu de difficultés. Par contre, c'est très rarement ouvert. Je sais pas,
ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu ouvert.
Ouais, moi j'ai skié là-bas il y a une vingtaine d'années et on y était monté un après-midi un après-midi de semaine. On avait d'ailleurs posé un après-midi pour aller skier. Mais voilà, parce que c'est exceptionnel que ce soit ouvert de ce côté.
Oui, c'est exceptionnel parce que ce sont des bénévoles aussi qui font fonctionner la station au chalet.
Mais des deux côtés ou pas ?
Non, du côté nord, du côté du Mont-Serein, c'est une équipe de salariés. Il y a des salariés, il y a des renforts, on appelle ça des saisonniers. Mais du côté sud, c'est une toute petite équipe. Bon, alors après, je connais un petit peu le directeur, Didier Pèbre, qui s'occupe de ça. Et après, est-ce qu'il y a quelques employés de la commune de Bédouin ? Je ne saurais pas dire.
Mais il n'y a aucune relation entre les deux, par contre.
Ah non, aucune liaison.
De domaine.
C'est liaison et relation aussi, parce que tu peux dire le chalet Rénard est ouvert, donc le Mont-Serein est ouvert.
Et l'enneigement n'est pas le même.
Pas le même,
du coup.
Voilà.
Bah, forcément.
Côté sud, il y a souvent moins de neige que côté nord. Et puis ça prend plus vite le soleil, ça fond plus vite et ça se dégrade. Voilà. Mais c'est vrai que le chalet Rénard est très sympathique aussi, parce qu'on a. On a une belle vue sur la plaine quand il fait beau et c'est agréable de pouvoir skier. Enfin, comme tu disais Jean-Yves, le plus difficile c'est le téléski finalement.
Ouais.
C'est le départ du téléski.
Ouais, c'est vrai.
Côté chez les Rénards, il y a qu'un téléski ?
Il y a deux téléskis. Deux, ouais. Ouais. Et dont un qui il sert l'été pour faire du VTT. Il y a un
bike park.
Bike park, voilà.
Mais tu parles bien anglais, Jean-Yves.
I speak English fluent, yes.
Mais voilà.
J'ai vécu chez les anglophones pendant 18-19 mois. Donc effectivement, oui, je parle un petit peu anglais. Parenthèse, merci.
Oui, une parenthèse, ouais. Tu le mets bien en valeur, c'est bien. Et au niveau du nombre de pistes, au niveau du nombre de pistes côté chez les Rénards, parce que je ne le connais absolument pas.
Il y a deux pistes, je crois. C'est très simple, tu descends le long de...
C'est quelle couleur ?
Ce doit être du bleu, à peu près, oui.
Du bleu. Ouais, mais par contre, voilà, tu n'as pas possibilité de si. Faire la liaison des
si,
deux.
Si, tu peux le faire en déchaussant lorsque tu es au sommet d'une des deux stations, gravir à pied jusqu'au sommet du Ventoux et redescendre vers l'autre station.
Oh, mais c'est haut.
Non, ça se fait, ça se pratique bien. Hein.
Mais en ski de rando ?
Non, à pied, sur les épaules. Le ski Moi, quand il y a de la neige, je le fais régulièrement, ça. D'accord. Au moins de monter jusqu'au sommet. Mmh. Pour avoir un peu plus de pente, bon, alors il faut pas le dire parce que c'est du hors piste après, donc
en plus, mais bon, non, mais c'est bien de savoir parce que c'est vrai que je savais pas qu'il y avait effectivement au chalet Rénard et c'est donc juste derrière le chalet le départ,
tout à fait, c'est ça, oui.
Et là aussi, il y a des forfaits ou
il y a un petit forfait, il y a des locations de ski, de matériel, y a...
c'est bien, ça,
il loue, plus des luges que des skis, mais bon,
excusez-moi, j'étais occupé avec le technicien,
non, mais on ne parlait pas,
d'accord, tant mieux.
Si, est-ce que tu as fait de la luge?
Oui. Ah.
Mais la luge en bois ou en plastique ?
Ben, j'ai connu la luge en bois, moi je suis vieux, tu sais.
Ouais. Ben, non, mais on le savait.
Mais oui.
Et toi Valérie, t'as fait de la luge ?
Ah ben oui, moi aussi j'ai connu la luge en bois. On est tous les deux On connaît Annie Cordy aussi. Hein. C'est pour tout à l'heure, comme vous vous êtes moqué de nous. Oui, on connaît pas mal.
J'ai même connu les débuts de Michel Thor. Mais... Oui.
Ah. Non, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on avait des élus, genre en bois. On n'en fait plus tellement, et quand on en voit, elles sont très chères.
Je voudrais, en parlant de ça, puisqu'on disait Michel, si tu nous écoutes, je voudrais faire un petit coucou à deux amis à moi qui sont à Alès et qui nous écoutent. JM, voilà. C'est juste.
JM.
Ouais. C'est Jackie et Michel à Alès.
Ça tombe.
Non, c'est pas vrai.
Ça aurait pu être Jean-Michel.
C'est des copains à moi que j'ai vus.
Qui ont un site internet, Jackie Michel.
Non, allez, on passe à la suite.
Non, parce que là, la radio, ça va faire moins de 18 ans. Attention.
Non. Mais j'ai dit JM, j'ai pas dit. C'est toi qui m'as poussé à dire.
Non, mais t'as dit Jackie Michel.
Allez, on revient aussi.
Là, on va s'enterrer. Si Alain nous écoute, ça va pas le faire. Hein. Le CSA, ils vont nous tomber dessus.
Non,
c'est
pour ça.
Là, c'est tout public. Hein.
Ils ont le droit de s'appeler Jackie Michel aussi.
Ben oui, ouais. Jackie Michel.
C'est bien aussi.
Jackie Sardou et Michel Sardou s'appellent
Jackie
Michel.
Par contre, Florian, il connaît. Hein. Il est en face de nous.
La famille Sardou, bien sûr qu'il les connaît. Tout le monde les connaît. Allez.
Donc, on revient à nos skis. Et là, je parlais du ski de randonnée. Et ça serait bien pour nos auditeurs, justement, de définir un petit peu. Donc, le ski de fond, on connaît. C'est monter, descendre avec des skis bien spécifiques. Par contre, le ski de randonnée, c'est quoi, en fait ?
Alors, le ski de randonnée, c'est un ski de piste avec une option où tu arrives à décoller le talon, la chaussure du ski, de manière lorsque tu prends la pente en sens inverse, c'est-à-dire à la montée, eh bien c'est plus aisé à pratiquer. Et en plus de cela, on y met une peau de phoque au-dessous pour ne pas glisser lorsqu'on avance vers la montée. Voilà.
On a un spécialiste avec nous, hein. Jean-Yves, je ne savais pas. Hein. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ski.
Un futur adhérent du ski club.
Non, plus pas d'adhérent au ski club, mais oui, j'en ai beaucoup fait, bien sûr.
De quoi ?
Ben, du ski, à peu près dans toutes ses formes. Jeune, j'ai beaucoup fait de fond parce que il y avait, alors pour la petite histoire, la ville du Pontet avait
Et là, on n'a plus que chalet. Deux minutes.
Pas un chalet.
Parce que là, tu donnes la parole à Jean-Yves, il est parti là.
Un truc en Ardèche, là, un centre de vacances où on allait régulièrement faire des stages d'oxygénation en hiver. Et du coup, on a beaucoup fait de ski de fond pour la prépa physique. Et à titre perso, oui, j'ai beaucoup skié, bien sûr.
Ah, mais en fond.
Alpin.
Oui, d'accord. Et donc, par rapport à ce ski de randonnée, vous, au club, par exemple, vous le proposez cette...
Non, il y a deux, trois adhérents qui font du ski de randonnée, pas plus. Après, c'est pas...
Mais ce ne sont pas les skis traditionnels, c'est des skis adaptés.
Oui, c'est des skis adaptés, bien sûr. Fixation et skis adaptés. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce que nous proposons, c'est d'accompagner les gens vers des stations... éventuellement de les encadrer ou de les encadrer quand ils sont vraiment un peu perdus sur les stations ou sur les lieux qu'ils connaissent pas, mais ça s'arrête là, on fait pas de cours de ski, on fait plus de compétition, on est vraiment devenu ski loisir, voilà.
Non, mais c'est important.
Donc le ski de randonnée est quand même déjà un peu plus sportif, on va dire. Donc c'est plutôt lié à des gens qui pratiquent ça de façon sportive.
Et puis c'est plus risqué parce qu'on parlait tout à l'heure du hors-piste. Le ski de randonnée, ça se fait que en hors-piste.
Ça se fait en hors-piste, bien entendu.
Dans des endroits non balisés parce que c'était sur. C'est compliqué de faire du
hors-piste.
Non, du ski de randonnée sur une piste damée, non, c'est pas.
Il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est d'aller où il n'y a pas de remontée mécanique.
Puis c'est un peu galère. Ça ne s'adresse pas pour le coup à tous les publics. Là. Il te faut être physiquement
préparé.
Parce que c'est hyper éprouvant, quoi. Déjà,
c'est vrai, parce qu'il faut monter...
Cardio, en fait.
C'est un truc de fou. Alors, tu prends un pied d'un autre monde. Quand tu arrives en haut de la cime et que tu te dis que...
Tu es le seul à y
être allé. Tu vas descendre pendant 20 minutes sans que personne vienne te gonfler au milieu. Par contre, ça se paye, quoi. Ce bonheur-là se paye cher physiquement.
Physiquement, oui. C'est beau. Moi, je sais que j'en fais pas, mais ça me plairait d'en faire si j'avais un peu plus de temps. Parce que ça, c'est pareil, tu vois, c'est quelque chose que tu fais pas le samedi, dimanche. Tu vas en semaine, tu te fais une petite balade dans une station où il y a un peu moins de monde. Et puis là, c'est terrible, quoi.
Bon, ben on fait une petite pause pour nous remettre de nos émotions. Oh. À tout de suite.
Sport sur RTVFM.
Voilà, bah écoutez, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Hein, on a commencé l'émission avec le ski alpin et on continue avec Yves Pélissier, vice-président du ski club de Carpentras. Rebonsoir Yves.
Rebonsoir Lionel.
On représente toujours parce que comme on a passé le...
S'il y avait des nouveaux...
Ben voilà. Auditeurs.
Non, mais il y a des gens qui travaillent tard, donc oui, ils prennent. Mais en tout cas, on peut nous réécouter en podcast, n'est-ce pas, Jean-Yves ?
Oui, mercredi matin, 6h-8h. Je le sais par cœur maintenant.
Bah ben, ouais. Et puis
il n'hésite pas. Hein.
Ah oui, non, mais.
Non, mais quand tu es au top, tu es au top.
Ouais.
Donc mercredi matin à la radio, 6h30-8h. Sinon, Facebook, ma chaîne, truc, tout. Everything.
Et le site ?
rtvfm.net.
Non, il a révisé et puis, j'ai regardé ce qu'il avait comme type de chaussures. Les bottes, non, il les passe pas encore.
Non.
C'est
non.
Juste des chaussures basses.
Ouais.
Pour les chevilles.
Ouais.
C'est ça.
Ouais. Mais je mets des. Mais bon, moi,
et tu es un skieur hors pair
Surtout hors pair, ouais.
Non, il a skié avec Kili. Hein.
C'est vrai?
Non. Ouais. Non, mais
je t'ai même pas dit en plus.
Mais non, il y a un petit moment que j'ai pas skié parce que j'ai pas le temps et parce que. Mais je skie encore jusqu'à il y a 3 ou 4 ans.
Bon, moi par contre, moi j'ai un problème avec le ski. Bon, moi je viens également d'une région de montagne. Bon, pas haute montagne, à moyenne montagne, c'est le Massif Central.
Au cas où vous l'auriez pas reconnu, son accent. Bref, oui.
Et je soutiens Clermont-Ferrand. Je soutiens l'ASM. Voilà, voilà. Vous savez toute ma vie. Et puis comme ça, Jean-Yves, il pourra plus me chambrer sur Clermont. Ils ont gagné au fait ce week-end, Jean-Yves.
Ouais, ouais.
Merci.
Contre personne. Mais
ils n'ont pas joué. Nous ne ferons pas de commentaires. On en parlera tout à l'heure. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes disent le ski, c'est un sport de bourgeois parce que c'est trop cher. Qu'en penses-tu ? Ils ont raison ou ils ont tort ?
Je m'abstiendrai. Non. Je vais dire une chose, c'est que nous proposons des sorties adultes, hein. Sortie journée à 46 euros.
Voilà, non, mais
donc
ce que je voudrais juste.
Après,
ce que je voudrais juste qu'on parle, c'est au niveau des stations proprement dites. Parce que c'est vrai que des stations proprement dites, après, effectivement, vous êtes un club vraiment exemplaire. Non, mais franchement, je le dis, je le pense parce qu'on parlera des tarifs, on ne trouve pas mieux, et franchement, et puis en termes de convivialité, il n'y a pas mieux non plus. Mais moi, je voudrais juste quand même pointer du doigt un peu les stations. Parce qu'au niveau des stations, quelqu'un qui débute le ski, il va falloir d'abord qu'il loue ses skis. Ça vaut cher.
Location du ski, c'est à partir de 30 euros la journée avec les chaussures.
Ça va.
Et ça peut monter jusqu'à 70-80 euros.
Ouais, si tu prends le high-tech du ski.
Si tu prends une qualité supérieure, voilà. Oui.
Bon, allez, 30 euros, tu peux quand même faire du ski. Mais après, le forfait. Parlons du forfait.
Et le forfait, ça commence à 19 euros au Ventoux quand il y a de la neige. Et ça peut atteindre, comme Val Thorens, quand tu prends les trois vallées, c'est 67 euros, le forfait pour une journée.
Pour une journée, donc ouais. Tu veux rester un peu plus une semaine, tu as la location qui n'est pas donnée,
ouais.
Tu as le forfait.
Sur plusieurs jours, voilà. Oui.
Voilà, sur plusieurs jours, donc c'est vrai que ça... Alors,
c'est vrai que vu de cette façon-là, le ski est quand même plus cher que la course à pied, c'est vrai, je suis d'accord.
Parce que le problème, c'est pas ça, c'est que... Des gens viennent en famille, ils ne sont pas tous célibataires, comme Florian, ils ne sont pas tous sans enfants, quoi.
Comme Florian.
Comme Florian. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est maman. Hein, ouais. Mais non, mais à un moment ou à un autre, c'est vrai que quand tu vis en famille, 67 euros, bon, les enfants, c'est un peu moins cher, allez, on va dire 40 euros, mais au final, c'est pas loin de 150, 200 euros la journée, quoi.
Tout à fait, c'est un budget quand même qui n'est pas négligeable, surtout si, si tu choisis une station des Alpes du Nord, par exemple, ou une des grandes stations où il y a à partir de 250 ou 300 km de piste, les tarifs des forfaits prennent de suite de la hauteur.
Après, tu peux skier pour beaucoup moins. D'accord.
Oui, si tu mets des skis sur les épaules
non,
et si
non,
tu montes.
Non, mais blague à part, si tu vas dans le Champsaur, par exemple, tu vas du côté de Saint-Michel de la Chaillole, des endroits comme ça.
C'est
à pas loin d'Orcières, en fait, c'est de l'autre côté d'Orcières.
Ouais. Ouais. Mais même Orcières, c'est quand même.
Même Orcières, ça reste abordable.
Abordable, très voilà. Abordable. Orcières, les Ors. Alors nous, on va souvent à Vars parce que c'est une station qui plaît énormément à l'ensemble des adhérents. Il y a souvent de la neige aussi. Donc, mais à Vars, c'est très abordable. On propose pour l'ouverture de Vars, qui se situe aux alentours du début décembre.
Tu le retrouveras. Voilà.
Le 15 et le 16 décembre, on propose le week-end hors transport à 95 euros.
Quand tu parles 95 euros, ça comprend...
Pour les adhérents du ski club,
forfaits.
Ça comprend les forfaits, les deux nuits, le repas du vendredi soir, le repas du samedi soir, le petit déjeuner du samedi matin et petit déjeuner du dimanche matin.
Oui, c'est donné.
95 euros.
Ah, c'est donné.
Alors, c'est certes, ce n'est pas un 3 étoiles dans lequel nous descendons. C'est plutôt une maison de famille, etc., de vacances. Mais le bonheur, il est là. C'est de faire du ski avant tout.
Bah oui.
Et de permettre de faire du ski à un prix abordable.
Parce que moi, j'ai regardé. Alors, par contre, là où les stations, on va dire, font un effort, parce que souvent, les locations, ça part du samedi au samedi.
Exactement.
Et le samedi, il y a des gains sur les pistes. Et donc, souvent, ils bradent les forfaits le samedi.
Il y a souvent un tarif privilégié en pleine saison, hors période scolaire, bien sûr. Mm. Mais il y a souvent le samedi. C'est vrai qu'il y a des fois un tarif préférentiel par rapport aux autres jours de la semaine, quand on prend le forfait journée.
Voilà, mais ça veut dire qu'il faut arriver plus tôt ou...
Alors, c'est notre cas. Nous, quand on part en week-end, et on en fait 6 ou 7, on va en faire 6 cette année. Quand on part le week-end, on essaie d'arriver le vendredi soir, de manière à ce qu'il y ait le vendredi, quand tous les gens sont partis et ne sont pas encore arrivés.
Donc, il n'y a personne sur les pistes.
C'est pas qu'il n'y a personne, c'est que c'est moins... C'est plus facile à skier. Les gens qui, comme tu disais à l'instant, qui ont loué pour une semaine, partent le samedi, donc ne skient pas le samedi. Et les gens qui ont reloué le samedi au samedi d'après ne sont pas encore arrivés. Donc, de ce fait...
Autre avantage, tu n'attends pas trois plombes aux remontées mécaniques.
Mais alors, il y a un truc qui me sidère. On dit, les Français, ils n'ont pas d'argent. Et il faudrait que les stations baissent leur forfait pour permettre à tout un chacun d'aller... Ben c'est blindé toutes les semaines.
C'est vrai.
Mais parce que le Français fait des économies sur d'autres choses.
Ben c'est ça. Mais franchement, ben beaucoup de gens aiment bien aller à la montagne, bon, même l'été, parce qu'il y a beaucoup d'activités à la montagne. Mais c'est vrai que, honnêtement, le ski, ça reste toujours très onéreux, mais il y a du monde en permanence, quoi. C'est vrai que ce soit en période scolaire, pendant les vacances... c'est...
Mais Français part peut-être moins longtemps. Avant, on partait, on disait. Bah,
c'est-à-dire, avant, tu te tapais deux semaines au ski, là, maintenant, tu fais une petite semaine et à moindre frais.
Aujourd'hui, si la tendance, c'est les gens qui viennent une semaine au ski ne font pas 6 jours de ski. Ils font une autre activité dans la semaine moins onéreuse. Et puis
dans les stations, excuse-moi Yves, mais dans les stations, tu peux avoir maintenant des forfaits, c'est même plus demi-journée, tu peux prendre un forfait 3 heures.
3 heures.
Moi, honnêtement, aujourd'hui, à 50 ans, 3 heures, moi, ça me suffit largement. Quand j'ai skié 3 heures, je rentre, je suis rincé. J'ai pas besoin d'aller. Alors qu'il y a 15 ans, par exemple, j'aurais pris un forfait journée, ça m'aurait coûté 100 euros. Là, maintenant, tu prends des forfaits 3 heures, ça te coûte 25 euros, tu te régales autant. Enfin, C'est 3 heures où par contre tu prends du plaisir ou tu vas
skier. T'es pas la queue quand même, parce que si tu fais ton quart d'heure de queue.
Mais si tu vas skier entre midi et deux, justement, t'as 3 heures pour prendre du plaisir, et ben tu les prends. Les gens ils gamellent entre midi et deux, il y a moins de monde sur les pistes. Écoute, tu sais quoi, tu te lèves le matin, tu le prends à l'aise. À 11 heures, tu es sur les pistes, 11 heures et demie, tu skis jusqu'à 15 heures.
Et l'apéro, tu le prends quand ?
Le soir.
Ah bon.
Non, tu me fais peur. Non, mais ça te permet de. Enfin, il y a un roulement. Il y a peu de gens qui skient. Je sais pas, Yves, si tu vas me.
Non.
Mais il y a peu de gens qui sont capables de skier, même physiquement. Hein,
toute la journée.
Du matin 9h que ça ouvre au soir 17h que ça ferme. Hein. En tout cas, moi, je ne suis pas capable.
Alors, dernière question, après on fera la pause et après on parlera du club. Les skis. Ça a beaucoup évolué maintenant. Et c'est vrai qu'avant, il fallait prendre des skis. C'est vrai que j'ai discuté avec pas mal de gens qui se mettent au ski. La bourse au ski va bientôt avoir lieu. Il y a des skis en vente. Le problème, c'est on fait comment pour choisir son ski ? C'est notre taille ? C'est plus petit que notre taille ? C'est au-dessus de notre taille ? C'est en fonction de notre poids ? C'est en fonction de notre niveau ? On choisit comment ? La couleur ?
Déjà, c'est en fonction du budget qu'on veut y mettre. C'est la première des choses. Après, c'est vrai que le ski s'est totalement métamorphosé. Avant, il était rectiligne. Aujourd'hui, il est parabolique. Donc, de ce fait, on peut le prendre un peu plus petit, à savoir juste sa hauteur ou légèrement plus haut si on est bon skieur, ou au contraire, un peu plus court que sa hauteur si on est débutant ou un skieur moyen.
C'est-à-dire que des skis de 1m20 pour Jean-Yves, ça serait bon.
Écoute, moi, j'ai pas mal skié avec des trucs qui mesuraient 1 mètre. D'accord.
Patinette. Ah, des patinettes.
C'est pas des patinettes, c'est des mini skis là, ouais, des snowblades. Et ben pour le coup, quand tu es comme moi avec un niveau relativement faible, ça te permet de passer à peu près partout. Par contre, il faut pas aller très vite parce que tu perds vite de la stabilité. Et si tu prends beaucoup de vitesse, l'arrêt est un peu compliqué à gérer. Mais par contre, moi en tout cas, j'ai skié pendant des années avec ce genre de matériel là, et je me suis éclaté. J'ai découvert des sensations que je connaissais pas avec les skis un peu plus longs. Ça m'a permis de faire des trucs de fou. Par contre, la vitesse,
c'est interdit.
Ouais. Allez, on fait une petite pause.
Écoutez, c'est une nouveauté RTVFM.
RTVFM.
Think about it.
Parlons Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour. Alors, je tiens quand même à nous dédouaner de nous, l'équipe de RTV Sport. C'est pas nous qui avons choisi la musique ce
c'est
soir.
Vrai, pas ce soir.
Voilà, c'est Florian, le technicien. C'est un excellent technicien, mais alors, au niveau du choix des musiques, je suis déçu. Hein, non, Valérie, t'en penses quoi?
Ben moi, j'ai même pas écouté parce que
moi non plus, j'ai plus écouté.
On l'a enlevé.
C'était boum, 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 tu vois. Ah, oui. Non, voilà. Non, c'était juste une petite parenthèse. Hein, Florian, si tu nous écoutes, on te salue. on revient au club. Tu parlais tout à l'heure de la Boursowski 40e, c'est-à-dire que le club a 40 ans ? Non, il est plus vieux.
Le club, il a été créé en 1936.
Ah oui, donc il est très très
donc
vieux.
Donc il a un peu plus de 80 ans.
Plus de 80 ans.
82.
C'est un des plus vieux clubs de Carpentras.
Non, il y a le CAF, le club alpin français.
Oui.
Et puis je crois qu'il y a deux ou trois autres clubs aussi, le club du gymnastique, s'il existe toujours, je ne sais pas, qui sont très très vieux.
T'as
aussi.
T'as le motoball aussi, de quand il date ? Le motoball, c'est vieux aussi.
Donc il y a vraiment de vieux clubs. Ouais. Donc toi, tu es président depuis vice-président.
Depuis 4 ans, puisque lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu vendredi prochain, on va réélire le comité directeur ainsi que le bureau.
Et le président, il s'appelle quoi ?
Le président actuel, c'est Gérard Borgo, le maire de L'Oriole, du comptable.
D'accord. Il va se représenter ?
Non, il ne pourra pas se présenter parce que les statuts ne lui permettent pas.
Le poste de président est vacant.
Le poste de président va être vacant dès vendredi soir.
Et c'est vrai que...
Au terme des élections, il y aura un nouveau président.
Mais tu vas te présenter
Ce n'est pas encore décidé.
Désigné d'office.
Désigné d'office.
Ouais, des fois, ils font parler de Ségolène Royal qui dit...
Volontaire à désigné d'office, tu sais.
Oui. Non, mais il faut des bons pour les postes de président, c'est des postes importants. Il est toujours présent quand
on... Non, mais il faut surtout des gens qui ont du temps, et moi je ne suis encore en activité, malheureusement.
C'est vrai que heureusement t'es quelqu'un de bien débordé, mais regarde, tu as pris le temps de venir nous voir.
C'est vrai, oui, bon, à toutes ces heures-ci, c'est quand même un peu normal, je peux aussi m'octroyer des moments de détente.
Alors, avant de parler de la Boursowski, parlons du club. Tu disais qu'effectivement, ce n'est pas un club de compétition, c'est un club de loisirs.
Ce n'est plus un club de compétition. Cela a été dans le passé.
D'accord, et plus
encore,
maintenant.
Il y a encore peut-être 8 ans, il y avait quelques compétiteurs. Aujourd'hui, c'est fini.
C'est une volonté de ta part ? De votre part ?
Non, c'est simplement le fait que déjà, il n'a plus donné à Juventus, donc c'est moins attrayant. Et les jeunes qui faisaient de la compétition ont grandi, ont quitté la région, ont fait des études, etc., ne sont plus dans la région.
Et il y a eu des bons skieurs ?
Oui, dans les années 70, 80, il y a eu des bons skieurs au ski club de Carpentras.
Tu parlais du Ventoux, Yves. T'as remarqué, toi, qu'il y avait moins de neige au Ventoux, ou c'est juste un problème passager ? On a connu des époques où il y avait énormément de neige, et puis des époques où il y avait moins de neige, et des époques où il y avait à nouveau beaucoup de neige. Est-ce que là, c'est une tendance forte qui a tendance à perdurer un peu, là ? Parce qu'on entend beaucoup les gens se plaindre, effectivement, de dire « Ouais, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas de neige au Ventoux. » Il y en avait beaucoup il y a 2 ans, me semble-t-il, ou même l'an dernier.
En 2015.
En 2015. T'as remarqué, toi, qu'il y avait moins de neige ou que c'était moins régulier ?
Alors c'est vrai que le phénomène réchauffement climatique qui est aussi en ce moment à la mode fait penser que le Ventoux fait partie de cela aussi. Alors la neige, elle est moins présente qu'il y a 40 ans en arrière, c'est vrai, parce que rares étaient les années où il manquait de la neige, alors que maintenant c'est l'inverse, c'est rare où les années où il y a beaucoup de neige. Donc la dernière fois c'était en 2015, on a skié jusqu'au 29 mars, on a skié du 16 janvier jusqu'au 29 mars, et on avait terminé on avait fermé la station avec une petite épreuve interclub du Vaucluse.
D'accord.
Ouais. Mais sinon, donc, ça veut dire que le club, pour qu'il puisse exister, il faut faire des sorties ailleurs. Vous allez où ? Alors, à Vars ?
Voilà, nous, on fait des sorties journées. On propose à peu près 8 sorties journées.
Donc, à peu près 2 par mois ?
Non, en principe, c'est une tous les 15 jours. Sachant que pendant les vacances...
Donc, 2 par mois.
En sachant que pendant les vacances scolaires, on fait pas d'activité. Parce que voilà, c'est une politique comme ça pour l'instant. Alors, 2 par mois, oui, si tu le veux. Le plus près où nous allons, c'est Super Dévoli. Et le plus loin, c'est l'Alpe d'Huez, les deux Alpes.
Et les sorties, c'est comment ? C'est des sorties journée, week-end, semaine ?
La sortie journée, nous la faisons le dimanche. Au contraire des clubs de Cavaillon et d'Avignon qui, eux, sortent le samedi.
Pourquoi le dimanche ?
Alors, pourquoi le dimanche ? Parce qu'à une époque où il y avait encore beaucoup d'adolescents, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, et il y avait également l'école le samedi matin. Et pour avoir ces jeunes qui étaient adhérents au club, pour les satisfaire au niveau sortie de ski, eh bien, les sorties ont été faites le dimanche. Voilà. Alors, c'est un peu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a aussi. On est en train de mettre en place des sorties communes avec les deux autres clubs loisirs du département, c'est-à-dire à savoir Cavaillon et Avignon. Et lorsque nous avons des adhérents qui ne peuvent pas venir le dimanche, on leur propose de sortir avec l'autre club le samedi.
Ah, c'est bien ça.
Oui, ça.
Et ceux qui ne peuvent pas venir le samedi peuvent venir chez vous le dimanche.
Voilà, mais c'est difficile de changer d'habitude.
Oui.
C'est-à-dire que les gens d'Avignon, quand tu les fais sortir le dimanche, ils sont, c'est pas qu'ils sont réticents, mais ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas le réflexe.
Alors comment ça se passe les sorties du journée?
Alors,
par exemple,
nous, nos sorties journée, nous partons de Carpentras relativement tôt.
C'est-à-dire 5h?
C'est-à-dire 5h15 dans le... Quand on va le plus loin, c'est-à-dire Alpes d'Huez ou Deux Alpes.
Vous prenez le bus, on prend voiture personnelle.
On prend un bus de 53 places, donc qui nous amène à la station. On fait du ski et puis on rentre en bus le soir. Donc on part en 5h15, 5h30 et on revient, c'est 20h30, 21h.
Ah oui, donc pas excessivement tard.
Si, c'est tard parce que ça fait quand même presque deux fois 3h30 de bus.
Ah oui.
Ça fait quand même 7 heures de bus dans la journée, mais ça nous laisse assez de temps pour profiter de la station et faire du ski à loisir, quoi. Je veux dire, du ski comme on a envie de le faire, de façon détente ou de façon plus sportive.
Alors c'est vrai que moi j'aime pas parler d'argent, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu tabou au niveau des clubs, parce que les cotisations augmentent, mais là ça me pose pas de problème, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment pas cher. Et quand on parlait tout à l'heure, donc j'aurais juste une idée, une personne qui veut faire une sortie journée le dimanche, tout compris, pour combien elle en aurait?
Alors, en parlant de tarifs et d'adhésion, nous cette année on a baissé nos tarifs d'adhésion.
En plus.
Voilà. Donc on avait auparavant on avait trois tarifs, les jeunes de moins de 18 ans, les jeunes de moins de 20 ans et les adultes. Là nous avons fait deux tarifs, moins de 20 ans et adultes. Et on a baissé un petit peu les prix. C'est quand même encore pas donné. C'est 30 euros pour l'adulte, une adhésion au club.
L'adhésion, tu parles à l'année, là?
À l'année, oui.
Pas à la sortie, donc. Non, 30 euros.
30 euros.
Va trouver un club qui te facture 30 euros.
Oui, mais c'est une adhésion. Nous, c'est à l'année, mais notre saison, elle ne dure que 5 mois et demi.
Oui, d'accord. Mais n'empêche que c'est pas cher non plus. Oui, même si ça durait le double, ça fait 90 euros. C'est pas non plus.
Alors,
cher.
Lorsque tu payes 30 euros, lorsque tu es adulte et que tu payes 30 euros d'adhésion, tu peux sortir au ski la journée pour 46 euros. C'est-à-dire transport. Dans ces 46 euros, ça comprend le transport et le forfait ski, quelle que soit la station.
Ben franchement, c'est intéressant.
C'est pas cher, moi.
C'est vrai que quand tu y vas de ton côté avec tes potes en voiture et tout ça, et que tu regardes le prix du forfait à l'Alpes d'Huez, comme nous allons bientôt y aller, c'est 42 euros le forfait à l'Alpes d'Huez pour la journée.
C'est ça. Après, il faut y aller en voiture, il faut trouver de la place.
Ça tout, c'est fait pour, il y a ce qu'il faut. Mais je veux dire, 42 euros le forfait journée, nous, on propose 46 euros le transport compris, avec une adhésion en amont.
Et ensuite, il y a possibilité pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément de venir. Il faut être forcément adhérent ou
alors,
on peut
non,
venir.
Non, on peut venir. Il y a un tarif non adhérent qui est un peu plus cher, enfin qui est quand même beaucoup plus cher parce qu'il fait 67 euros la journée.
Oui, mais ça reste quand même abordable. Mais ça permet aussi à une personne de voir...
Voilà, ça permet de découvrir d'abord le club, l'association... voir si c'est intéressant de pratiquer cette formule, et ça permet d'aller dans une station sans prendre sa voiture, sans se fatiguer à conduire, sans avoir multiplié les risques d'accident, etc.
Et il y a des listes d'attente ou non, on peut...
Alors, les sorties journées, on a depuis quelques années, depuis 4 ans, on va dire 3 ans, on a quand même une baisse de fréquentation. C'est en train de remonter péniblement, mais on arrive à... L'an dernier, on a eu un peu plus de taux de remplissage du bus. Moi, quand je suis arrivé au club il y a 4 ans, enfin, comme vice-président, on avait une moyenne de 39-40 personnes de bus en moyenne. L'an dernier, on était, je crois, à 31. Voilà.
On peut allonger ses jambes.
Oui, c'est vrai. On peut même plus dormir.
Dormir, ouais.
Dormir aussi, ouais. Et alors, par contre, ce que j'ai remarqué, et vous avez un site très très bien fait, c'est lorsqu'on est adhérent ou non adhérent, on a également un privilège, c'est de pouvoir louer un studio, à la montagne.
À Super Dévolu.
Ouais. À Super Dévolu. Et pour des prix excessivement faibles. Par rapport à une location traditionnelle.
Je pense que les prix sont ajustés par rapport à l'offre qu'il y a. Hein.
Donc il y a un tarif.
Alors c'est vrai qu'il y a un tarif adhérent qui permet encore un petit rabais. Mais c'est vrai que cette année, on a bien loué le studio. Il a été loué assez souvent. Et même cet été, durant l'été. Et les gens qui y sont allés cet été étaient ravis parce qu'il y avait une activité autour de la montagne qui était...
Donc on peut le louer toute l'année.
Toute l'année, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas de restriction.
Non, mais ça, c'est pas mal, ça. Parce que c'est vrai que c'est un service supplémentaire qui est proposé par le club. Et c'est vrai que... On trouve pas ça partout, donc et puis c'est vraiment intéressant. Donc on n'a pas le tarif, parce qu'on encouragera les gens justement à aller sur le site, hein, parce que sur le site c'est pas mal. Et ensuite, outre ça, il y a un événement important qui est la bourse au ski, ouais. Qui va débuter au même moment que la foire de la Saint-Siffrin. Alors comment c'est organisé?
Je vais quand même continuer sur ma lancée. Nous avons des sorties journées, comme je viens de l'expliquer. On a des week-ends. On organise 6 week-ends et aussi il y a un séjour en fin de saison, un séjour d'une semaine. Voilà.
À quel endroit ?
On va à Tignes. Depuis quelques années, le séjour se déroule à Tignes. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site du ski club de Carpentras. Il n'y a pas de souci. Et comme tu viens de le dire à l'instant, le 20 décembre, du 20 au 25 décembre, se déroulera la bourse au ski.
Alors, comment c'est organisé? Parce que je sais qu'il y a un moment pour le dépôt, voilà. Un moment pour venir acheter.
Alors, depuis quelques années, on a un petit peu modifié l'organisation. On dépose donc là, ça va être le cas, ça va être le mardi 20. On peut déposer les objets à la vente. Et on peut malgré tout acheter aussi ce qui a été déjà déposé la veille par des professionnels. Il y a 3 professionnels qui viennent déposer le matériel. Ou donc, mais le jour même, le mardi, on peut déjà acheter. Donc, et le dépôt se fait jusqu'au jeudi midi.
D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut, dès le premier jour, on vient et on peut revenir jusqu'à la fin. Le dernier jour, c'est
dimanche. Le dimanche 25.
Le dimanche 25.
Voilà. Alors, habituellement, il y avait toujours la foire qui était englobée dans notre...
C'est vrai.
Cette année, on a fait le choix de prendre cette date parce qu'on s'est dit que si on commençait une semaine plus tard, le parking serait vraiment encombré le jour du dépôt. Donc, on a préféré le faire une semaine avant. Il y a la foire commerciale qui sera du vendredi, samedi et dimanche, je crois, qui va attirer du monde un petit peu et ça nous fera un petit peu de passage aussi au pied du château.
Il y a beaucoup d'articles ?
Je pense qu'on va être comme les autres années, entre 2500 et 3000 articles.
Donc, on trouve de tout ?
On trouve des skis majoritairement, des chaussures et il y a des vêtements aussi pour le ski. Blousons, pantalons de ski, combinaisons, etc.
À quel endroit elle a lieu ?
Au château de la Roseraie.
Et donc on vient, on peut déposer, il faut prendre rendez-vous.
Voilà, non, à partir du mardi 20 novembre, à partir de 9h, je crois, oui, 9h. On peut, de 9h à 19h, c'est ouvert tous les jours jusqu'à dimanche.
Très bien. Bah, en tout cas, le rendez-vous est pris parce que je sais que même moi, je vais y passer parce que c'est vraiment... En plus, il y a des articles de qualité.
De qualité et souvent à des prix très intéressants.
Très intéressants. Après, c'est vrai que vous prenez une petite commission qui vous permet justement de participer, d'organiser tous ces événements-là.
Et de pratiquer des prix intéressants.
Mais malgré cette commission-là, franchement, il y a des articles, des tenues de ski en très très bon état, pas cher. Les skis, tu disais, hein, et puis bon, vous avez quand même aussi une vision là-dessus. Hein,
on a une vision et puis on a aussi, en plus des particuliers qui déposent du matériel, il y a aussi 3 professionnels qui amènent du matériel révisé, soigné, entretenu, etc.
Tout est dit.
Voilà.
Il n'y a
plus qu'à venir nous rencontrer.
Bien sûr, on mettra bien sûr tous les renseignements sur le podcast, hein, le site qui est très très bien fait, hein, je le redis. Vous avez, je crois, une page Facebook.
On a on anime une petite page Facebook. Enfin, on anime, on essaie de l'animer.
Non, mais en tout cas, pareil, hein, elle est bien faite. Il y a je crois qu'il y a même les sorties, il y a des images, des photos.
Oui, tout à fait.
Elle est très, très sympa. En plus, on voyage. On voit, on voit les montagnes.
Ça sert à ça.
Mais en tout cas, merci beaucoup Yves Pélissier pour.
Moi, je vous remercie à vous tous de nous avoir accueillis encore une fois pour parler du ski club surtout et des événements qui vont arriver ces jours-ci.
Et peut-être que, si tu es d'accord, on pourrait peut-être t'appeler lundi prochain pour voir un petit peu ce qui a été dit lors de l'Assemblée Générale, pour voir si on t'appelle vice-président ou monsieur le président.
Avec plaisir, si tu veux.
Hein, donc on cale ça pendant la pause musicale.
Quelque chose me dit que... Bon, bref.
Voilà.
Il a un meurtre de café. Mais en tout cas, merci beaucoup Yves Pélissier d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle, l'Arbre sous ski, date importante à partir du 20 novembre. C'est dans deux semaines.
C'est dans deux semaines, exact.
Voilà. Jusqu'au 25.
Jusqu'au 25.
Au soir.
Au soir.
Très bien. Allez, on fait une petite pause et puis après, on parle à rugby à 13.
Oui, monsieur.
À tout de suite.
C'est là, ça nous tourne autour, même si on ne voit pas, on entend chaque jour un petit refrain, un bout de chemin, un son au lointain qui nous fait du bien. Il faut que ça sorte avec nos voix, et puis des notes, et puis des choix, avec de l'amour. Dans ce qu'on fait avec de l'humour, de la sincérité. Chanter, c'est libre de droit et d'idées. Ce petit moment qui arrête le temps. C'est là, c'est comme un besoin. Choisir les mots, les mettre bout à bout, aller plus haut au-dessus des tabous, se faire du bien dans la mélodie, croiser les chemins, tempo et harmonie. C'est là, c'est en nous, c'est là, ça nous suit, c'est au rendez-vous, au carrefour de la vie. Chanter, c'est libre de droit et d'idées. Ce petit moment qui arrête le temps. C'est là, en ces temps pluvieux, où les fous de Dieu se tuent sous nos yeux, comme une respiration, comme un souffle d'air, comme un coup de crayon, une pause dans l'enfer. Juste des chansons, c'est pour garder la foi, pas perdre nos illusions. C'est comme ça, nous on en a besoin pour rester avec toi, pour se sentir humain. Chanter, c'est libre de droit et d'idées. Le vrai coup de vent où on se sent vivant.
Coup de vent.
Parlons sport sur RTVFM.
Magnifique. Oh, j'ai un retour impressionnant dans les oreilles d'un coup là.
Trio, c'est super chanson.
Ah non, mais franchement, un choix musical d'enfer.
Ouais.
Alors. On va aller à l'essentiel parce qu'il y a eu un match d'anthologie hier. Je ne sais pas si c'est d'anthologie. Entraigues Carpentras, le derby. Et pour en parler, on a quand même le co-entraîneur de Carpentras, Jérôme Alonso.
On a Jérôme Alonso au téléphone.
Salut Jérôme.
Bonsoir.
Tu nous entends bien ?
Oui, impeccable.
Impeccable. Bon, match... important hier, donc le derby contre Entraigues, match nul, mais il y a eu quand même pas mal de rebondissements. C'est quoi ton analyse du match ?
Bon, ben, l'analyse du match, elle est vite faite, hein, c'est que on a joué que 58 minutes, donc c'est difficile pour faire une analyse. Bon, nous on a très mal débuté la rencontre. Les 20 premières minutes, on a complètement déjoué, on a laissé le le ras du tenu à la main d'entrée, ce qui nous a posé pas mal de soucis. Après, on était bien revenus dans les 20 dernières minutes, et je trouve qu'on avait fait une très bonne entame de seconde mi-temps, où on était, je pense, en train de prendre le dessus physiquement sur Entraigue. Malheureusement, il y a eu un fait de match qui fait que le match a pas payé à son terme.
Et le fait que ton équipe ait mal débuté, ils avaient la pression ?
Non, je pense pas qu'on avait la pression. Après, c'est toujours pareil, c'est un derby, donc on savait qu'Entraigue, ils avaient le couteau sous la gorge, puisque il fallait absolument qu'ils gagnent, et nous, on voulait absolument gagner aussi pour rester sur la bonne dynamique depuis le début de saison. Donc je pense que, non, c'est pas une question de pression. Je pense qu'on a trop voulu bien faire, justement, en écartant les ballons, puisqu'on savait que c'était là où on avait le plus de chances de passer. Le problème, c'est qu'on a pris beaucoup trop de raccourcis, on est allé trop vite sur les extérieurs, sans prendre le temps de fixer le parquet d'avant d'entraigue. Donc je pense pas que c'était un coup de pression, c'est qu'on a voulu trop jouer et trop vite.
Jérôme, Jean-Yves, salut. Ouais. Mon analyse, moi, c'est que vous avez été un peu cueilli à froid par Entraigue pendant une demi-heure, là, où ils sont venus vous rentrer dedans et vous vous attendiez pas spécialement à ce genre de comportement de la part des Entraiguois, puisqu'en général, c'est plutôt votre domaine à vous, ce rugby-là, là, le rugby un peu agressif au ras. Là, c'est ces Entraiguois qui sont venus vous choper au milieu du terrain, qui vous ont fait la guerre. Est-ce que vous avez été surpris ?
Non, surpris non. C'est ce que je disais, c'est que en fait, nous, on savait que devant, ils allaient proposer la guerre. On savait qu'on était capable de répondre à cette guerre, et on savait qu'en répondant à la guerre, on serait plus facile pour nos trois quarts de produire du jeu. Malheureusement, comme tu l'as dit, eux, ils sont venus nous rentrer dedans. Bon, on a quand même bien défendu, mais nous, par contre, on n'a pas assez joué devant pour les fixer. Et à partir de là, ben, ils étaient trop bien en place en défense, ils couvraient trop bien les extérieurs, ça nous a empêchés de pratiquer notre jeu. Après, non, on n'a pas été surpris, on savait qu'ils allaient jouer sur ça, puisque c'était le... Enfin, après, c'est notre analyse à nous. C'était le seul domaine où ils pouvaient nous rivaliser. Je pense qu'on a une ligne de trois quarts bien meilleure.
Clairement. Je vous ai trouvé un petit peu naïf en seconde demi-temps, Jérôme, où on en a parlé hier tous les deux, mais je vous ai trouvé un petit peu naïf juste avant l'interruption, là où vous jouez en supériorité numérique, et vous continuez, alors là pour le coup, vous répondez à la guerre, et vous continuez à leur rentrer dans la gueule au milieu du terrain, alors que probablement que les solutions étaient sur les côtés. On voit quelques mauvais choix, je pense notamment à Sofiane qui garde deux ou trois ballons qui auraient pu faire essai. Le petit comment il s'appelle,
Bravo.
Ton centre, non pas Bravo, c'est pas Grosson, ton centre, comment il s'appelle, oui Grosson, hein, pardon,
Grosson, il y a ouais. Grosson d'un côté et voilà. De l'autre.
Grosson là, qui joue un ballon un peu de manière acrobatique, enfin, vous êtes compliqué la vie et en jouant comme ça, c'était un petit peu compliqué, non?
Oui, tout à fait. Après, comme je te dis, en début de seconde mi-temps, c'est nous, coach, qu'on avait demandé à ce qu'on aille justement les défier devant pour avoir beaucoup plus d'espace après derrière. Après, il y a le carton rouge qui leur fait mal à eux, mais qui nous fait mal aussi à nous, parce que voilà, comme tu dis...
Vous avez dégoupillé, je pense. Hein. C'est là que vous sortez un petit peu du match.
Plus, donc, on est un joueur de plus. Alors, est-ce qu'il faut les défier encore plus? Est-ce qu'il faut... Alors, moi, je pense qu'on aurait, oui, il fallait continuer à les défier pour les épuiser encore plus. Avec un joueur de moins, ils auraient craqué, je pense, plus vite. Maintenant, après, c'est nos demi qui auraient dû, à un moment donné, aussi prendre la responsabilité du jeu. Et là, c'est là où, on, comme je disais quand on était venu, on manque un peu d'expérience. On a une charnière, on a eu Beau Bravo qui est jeune, qui a 17 ans. Dans un contexte difficile, puisque bon, quand même, ils l'ont branché tout le match, sinon ils
ont ouais, justement.
Donc c'était un peu difficile pour ça.
J'ai trouvé très bon Hugo là, dans le jeu, et effectivement, il a encore fait un match de fou hier. Mais effectivement, est-ce que c'est pas sa limite là en ce moment à Hugo, le fait qu'il ait 17 ans et que dans les moments un peu compliqués, il ait du mal à gérer les temps forts et les temps faibles de l'équipe?
Ouais, tout à fait, bien sûr. C'est sûr que c'est là où on voit qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Et bon, après le problème qu'il y a, c'est que on est juste, si tu veux, au niveau de la charnière, donc on est obligé de lui faire jouer tous les matchs. Et à cet âge-là, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il a le poids de du jeu sur ses épaules. Et bon, après, c'est que l'élite 2, mais c'est quand même déjà un championnat qui est quand même bien relevé et de bon niveau. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que le petit, il perd un peu la tête, mais c'est à nous à l'aider, justement, et moi, plus particulièrement, puisqu'il a joué à mon poste, j'ai joué au même poste que lui. Ouais. Donc, je trouve que là, justement, on avait un peu peur, justement, de ce match, parce que on savait qu'ils allaient le cibler, on savait qu'il allait prendre des coups, on savait qu'ils allaient y parler. Et je trouve que, justement, il a bien répondu à ça.
Ah ouais, il a plus que répondu, puisque c'est...
Où c'est le moins énervé. Et où il a prouvé que c'était quand même un grand joueur.
Dis-moi, tu penses bien qu'on n'allait pas passer sous silence les événements d'hier. Avec 24 heures de recul, comment tu as revu les images
j'ai revu les images,
ouais. Ouais, alors
bah, écoute, le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est pas violent, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a rien, mais on n'a pas le droit de toucher un arbitre, quoi. C'est... Mmh. Je sais pas, c'est déjà avec l'image qu'on a au rugby à 13, encore plus.
Bien sûr, ce qu'on disait hier après le match.
En étant président, encore plus. Donc on donne une mauvaise image de nous. Et bon, moi je trouve que Nicolas Vinal est un très bon ami à moi.
Je sais, ouais.
Donc j'ai discuté un peu hier soir avec lui à chaud, mais pas trop de l'histoire parce que c'était pas la peine de revenir là-dessus. Il a eu un coup de sang. C'est regrettable pour le rugby à 13, puisque bon, le stade était plein. Il y avait un beau match, c'était en direct à la radio. Et voilà, et bon, et en plus, il pénalise son équipe, quoi, parce que il y avait 12 à 12, rien n'était joué, autant nous qu'on aurait pu gagner, mais autant on aurait pu gagner aussi. Ils avaient absolument besoin de cette victoire, bon, maintenant, la commission de discipline va statuer, mais bon, je vois pas quelle autre issue, à part qu'on ait match gagné, qu'il peut y avoir sur le résultat, quoi.
Et la commission devrait se statuer d'ici combien de temps?
Ah ben là, c'est ce soir, non, demain soir ou mercredi.
Demain en général, ouais.
Et le prochain match, alors pour vous,
c'est le mardi.
Et pour vous, le prochain match, c'est quand?
Dans 15 jours.
Le prochain match, c'est le 18 novembre contre Villefranche à la Roseraie.
Voilà, donc il faut remobiliser toute équipe, mais en tout cas, c'est vrai que... J'ai pas pu suivre le match malheureusement, mais de ce que j'ai entendu, le match d'hier était totalement à votre hauteur, donc match nul 12-12. Après, c'est vrai que le match aurait continué, peut-être que vous auriez pu marquer quelques essais de plus.
Oui, voilà, ben, comme on dit, ben, malheureusement on le saura jamais, mais nous sur le bord et ceux qui en est sorti de la vidéo du match, on sentait que quand même sur les 5-10 dernières minutes de la seconde mi-temps, donc enfin de la 50e à la 60e, donc on sentait qu'on prenait le dessus physiquement. Comme Jean-Yves l'a dit, on a été naïf sur 2-3 coups où on aurait pu scorer et prendre l'avantage avant. Maintenant, voilà, oui, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. C'était un match très serré, un beau derby à jouer. Peut-être pas à regarder parce qu'il n'y a pas eu trop d'envolées, trop d'essais. Par contre, je trouve que défensivement, les deux équipes ont été bien et donc ça donnait quand même un beau spectacle.
En tout cas, Jérôme, merci de ta disponibilité encore hier et ce soir. Et puis, eh ben, on reviendra vers toi pour la suite des événements.
Il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt.
Au revoir.
Merci. Salut, au revoir.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Vous écoutez RTVFM à Carpentras sur le 102.2.
Make you lose it like I can. I can do- what's going on right now. Cause this Tennessee's so strong right now. I don't even care if I'm wrong right now.
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, après cette pause musicale où Valérie dansait, c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo. Nous avons parlé donc de rugby à 13 avec un match nul, avec arrêt du match, hein, donc 12 partout. On verra ce que va dire la commission de discipline. Mais Valérie, tu avais d'autres résultats?
Oui, j'avais du Yosuken Budo, donc je vais parler aussi de football et de basket. Donc il n'y a pas grand-chose, hein, parce que c'était les vacances scolaires, donc voilà. Je vais commencer par le Yosuken Budo avec l'Open International qui se déroulait en Italie. Et Charlelli Pio, membre de la team Yosuken Budo 84, donc s'est classé premier en classe A, ainsi qu'en armes, donc voilà. Hein, et ça s'est déroulé samedi dernier. Voilà, ça c'est pour le Yosuken Budo.
Ouais.
Il y avait aussi donc du football. En régional 1, Pernes recevait Mandelieu et s'est incliné sur le score de 0 à 1. Et au classement général, Pernes est quatrième. En régional 2, poule C, donc Carpentras recevait Monaco. Et là, Carpentras, là aussi, s'est incliné 2 à 4. Donc au classement général, Carpentras est septième. Donc à 3 points du deuxième et très loin quand même maintenant du premier Rousset. En Grand Vaucluse, division 1, Pernes recevait Calavon, donc 3 à 1. Pernes est 8e au classement général. En D2, poule A, Mayanne Monteux 2-0. Monteux est 11e. En D3, poule A, Vedaine Monteux 1 partout. Monteux est 10e. En poule B, Carpentras-Sarian 3 partout. Au classement général, Carpentras est 3e. Enfin, en division 4, poule B, Aubune-Saint-Didier 2 à 4. Et Serres-Richeranche 3-0. Au classement général, Serres est toujours premier, et Saint-Didier deuxième. Il y avait du VTT aussi, les finales du trophée d'automne à Pernes-les-Fontaines. Donc il y a eu de très 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 bons résultats pour les Pernois et les Carpentrassiens, donc je vais donner juste ces résultats. Hein. En 34 ans, premier Cédric Décor.
Encore en 30
34 ans.
Ah oui,
donc le premier, ça a été Cédric Décor, qui est au BMX de Pernes. En senior 17-25 ans, Paul Garrido de Carpentras termine deuxième et Maxime Marie de Pernes troisième. En cadet, donc le jeune Hélo de Pernes donc termine troisième. En benjamin novice, Maxime Boissin donc de Carpentras termine premier et Manu Guerra et Roig de Pernes terminent respectivement deuxième et troisième. En benjamin, Emeline Lazare termine première et Vache termine troisième. En minime garçon, Lucas Chevreau de Carpentras termine premier et l'agneau de Pernes finit troisième. En minime fille, donc la jeune Décor de Pernes termine troisième. Il y avait donc le rugby à 13, on en a parlé, mais on n'a pas donné leur classement. Ils sont quand même deuxième au classement général, hein, derrière. Bah,
alors, j'ai volontairement pas parlé de classement parce que c'est susceptible d'être beaucoup chamboulé parce que ils ont eu la confirmation de leur match perdu contre Pia. Je sais pas si ça a été pris en compte.
Si ça a été pris en compte. Ouais,
ouais. Et par contre, ce match-là, eh ben, pour le moment, il est à 0-0 officiellement.
Ouais. Mais bon, le classement général, on va dire provisoire, ils sont deuxièmes. Il y avait aussi du basketball avec l'ABC de Carpentras. En senior garçon, Martigues, donc Carpentras se déplaçait à Martigues et Carpentras donc s'est incliné 44 à 71. Et il y avait aussi les seniors filles qui se déplaçaient, elles, à Bouc-Bélair. Et là, elles se sont imposées 65 à 43. Et en national, hein, une Sorgue se déplaçait dans les Vosges Et là encore, elle s'est inclinée, cette fois-ci encore Sorgue, hein, l'équipe de Sorgue,
ouais,
sur le score de 84 à 92.
Donc, ouais, les Sorguais qui hein. se déplaçaient du côté d'Épinal pour affronter Jette Vosges. Ouais. Et effectivement, ils ont encore perdu ce week-end 92 à 84. Ils font un bon match et puis finalement, ça ne marche pas encore une fois. On avait, c'est un petit peu le même style de match auquel on avait assisté la semaine dernière contre Saint-Vallier. Ils sont un petit peu dans le dur, ils ont fait un gros début de saison et puis ils sont un petit peu dans le dur. Alors ce mercredi soir, ils affrontent une équipe de Pro A, Fos-sur-Mer, dans leur salle de la Plaine Sportive en 32e de finale de la Coupe de France. On sera en direct, vous pourrez suivre le match en direct à la radio. Et ben on espère en tout cas que ça va permettre aux joueurs de pas faire un coup, parce que c'est très compliqué d'affronter une proie, il y a deux divisions d'écart. Mais en tout cas, ça va leur permettre de jouer un basket un petit peu plus libéré, un peu plus fun, on va dire. Puis on ne sait jamais, il y a peut-être un coup à faire. Ça me paraît compliqué, mais il y a peut-être un coup à faire pour les hommes d'Étienne Faye.
Voilà. Et sinon, au classement général, donc l'équipe de Sorgue est cinquième. Hein,
ouais,
voilà,
absolument.
Moi, j'en ai fini avec les petits résultats donc de Carpentras, de Sorgue et des environs.
Ouais, il y avait aussi du rugby à 15, oui, puisque Bédaride recevait Chambéry. C'était un match qui sentait pas très bon, en fait, pour aucune des deux équipes, puisque l'équipe qui perdait risquait de se voir un petit peu décrocher. Bédaride l'a emporté 14 à 12 au terme d'un match qu'on va qualifier de terne. Pour être tout à fait poli. Mais en tout cas, ben, c'est une victoire qui fait du bien, parce que ça coupe la spirale de la défaite. Et puis ça permet à l'équipe de Bédaride de Châteauneuf-du-Pape de se maintenir à la 6e place. Et puis ils ont surtout, en battant Chambéry, écarté un rival pour la relégation. C'est un bon résultat, malgré la manière, c'est un bon résultat. Il y avait aussi du volleyball, puisque l'AVB a obtenu sa première victoire de la saison samedi soir contre Mende sur le score de 3-0.
D'accord. Et en rugby à 15, Clermont, tu m'as dit qu'ils avaient gagné ?
Clermont a gagné contre personne. Je crois que c'était La Rochelle. Enfin, un truc,
La Rochelle ?
Ouais, ouais. Mais bon.
Non, mais c'est bien de dire ça, en fait. Même si on ne donne pas forcément les résultats du rugby à 15, c'est bien de parler de Clermont-Ferrand, qui pour l'instant est toujours premier.
Premier au classement général.
Ouais, ouais, ouais. C'est
tu peux le redire, ils sont.
Non, ils sont.
Premier au classement général. Bah
non, mais c'était important de le dire.
Non, mais après c'est bien de faire.
Tu veux faire du son là maintenant ?
Ouais, non, après c'est bien de faire le malin tout l'hiver et puis de te vautrer lamentablement dès qu'arrivent les petites fleurs dans les champs, tu sais.
Ben, c'est ça.
Au rugby, on dit que à partir du moment où poussent les fleurs dans les champs, c'est le moment où il faut être prêt.
Ouais, mais tu peux faire le malin.
Alors, ils n'ont pas gagné. Clermont n'a pas gagné. Clermont a fait match nul 27 à 27 avec Grenoble.
Ah ben voilà, tu vois.
Non, ouais, mais c'était à Grenoble.
Voilà, effectivement, c'était à Grenoble. Mais voilà, il y a un vieux dicton qui dit ça dans le rugby. Il dit tu peux gagner tous les matchs que tu veux tout l'hiver. L'important, c'est quand les pâquerettes recommencent à pousser dans les champs.
Bon, bah en parlant de pâquerettes, donc lors du match d'hier, hein, donc retransmis en direct sur RTVFM 102.2, je rappelle que le match donc de mercredi, c'est à partir de
19h. C'est à partir de 20h.
20h.
Retransmis en direct, c'est du basket, bien entendu.
Bien sûr.
Sur le 102.2, sur internet également, rtvfm.net. T'as vu un peu ?
T'es au top.
Ouais, ouais.
Et hier, donc, tu as pu faire également des interviews.
Ben ouais, après le match d'Entraigue et dans la, on va dire dans la confusion, on avait parlé un petit peu avec Jérôme et surtout j'ai eu le plaisir de discuter un long moment avec Gaël Talec, qui est le co-entraîneur de cette équipe de Carpentras et qui, au même titre que Jérôme Alonso, est pas pour rien dans la renaissance de Carpentras. On va peut-être écouter ce que nous disait Gaël Talec à la fin du match de hier. Je suis avec Gaël Talec, un des deux entraîneurs de Carpentras. Gaël, tes impressions là, sur ce match qui finit un peu en eau de boudin ?
Ouais, c'est la déception un peu voilà, pour les joueurs et surtout pour le public qui était venu nombreux. C'est vraiment dommage quoi, d'avoir un incident comme ça. On comprend pas trop. Quoi. C'est pas trop ce qui s'est passé. On était là, match arrêté. On sait pas si on a gagné, si on a perdu ou... Voilà, bon, mais quoi qu'il en soit, on va continuer à travailler. Et sur le match, après, bon, je vais pas parler trop de cet incident, mais sur le match, il y a quand même des choses à dire, il y a des choses positives. À mon sens, bon, je regarderai le match à la vidéo, mais je pense qu'on doit marquer deux ou trois essais qui sont tout faits, on fait pas la passe au bon moment. Après, voilà, Entraigues, quand même, belle équipe. Hein. Chez eux, on savait que ça allait être difficile. Voilà, bon, encore une fois, déçu que ça se passe comme ça.
Ils sont venus un peu là où vous les attendiez pas trop. Ils sont venus vous chercher au milieu du terrain, la aura. Ils sont venus un peu vous défier, vous rentrer dedans. Vous vous attendiez à ça ?
On s'y attendait, mais c'est vrai qu'on a manqué d'intensité en début de match. On était un peu sur le reculoir. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, où on a pris l'ascendant un peu devant, on jouait plus rapidement les tenues. Et c'était eux qui étaient forcément bon. Après, il y avait un joueur en moins aussi, ils ont pris en rouge, donc ça pèse hein, sur le match.
Justement, là, avant l'interruption, on vous a vu continuer à aller chercher le milieu du terrain, alors que peut-être ça aurait demandé à écarter un peu plus de ballon et à aller chercher ces entrées sur les côtés, alors qu'ils étaient en infériorité numérique.
Tout à fait. C'est exactement ça. On a manque de lucidité à certains moments. C'est à nous de les faire travailler aussi aux entraînements pour pouvoir analyser les situations et faire en sorte qu'on les concrétise quand il faut. Parce que j'ai en mémoire deux ou trois actions où si on donne le ballon, s'il va à l'aile, vraiment, je pense qu'on peut marquer. Quoi. Je pense qu'on était plus en position de marquer qu'eux. On s'est retrouvé plusieurs fois les situations, on était proche de la ligne. Et malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Sur ce manque de lucidité, on est resté enfermé au milieu. Quoi.
C'est pas un problème de jeunesse là, parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs à des postes clés. Je pense notamment au petit Bravo qui est un jeune joueur et qui probablement fait pas toujours les bons choix dans les moments compliqués sans lui jeter la pierre. Il a que 17 ans, mais probablement que ça vient aussi de la jeunesse de ton effectif, non ?
Oui, on le sait. Hein, on sait que voilà, nous on travaille en toute humilité, on sait très bien nos forces et nos faiblesses, hein, on les connaît très bien. Après, voilà, pour en revenir à Hugo, c'est un joueur en devenir, il est jeune. Il manque encore un peu de maturité, mais moi je pense que c'est un bon espoir du rugby à 13 quoi, français. C'est quelqu'un qui peut aller très loin. Voilà, après, comme tu viens de dire, c'est vrai que même d'autres joueurs, des fois, ne donnent pas les ballons. Je pense à Sofiane aussi, de temps en temps, il doit lâcher le ballon. Mais bon, c'est des réglages qu'on doit faire. Et je pense qu'on pourra embêter un certain nombre d'équipes cette année, je pense. Si on arrive à régler ces petits problèmes.
Merci Gaël.
Ah, on était à l'antenne, c'est pour ça ? Ah ben oui, c'est pour ça. Oui. Ben justement, j'avais une question à poser à Jean-Yves, parce que tu as rencontré Gaël dans les vestiaires. C'était après le match ?
C'était après le match.
Dans quel état d'esprit, justement, après cette analyse qu'il a ? Parce que c'est quand même un match arrêté.
Alors c'est
comme il disait tout à l'heure, Jérôme, c'est l'image du rugby à 13, l'image de Carpentras.
Il y a plein de choses qui se télescopent. Il faut savoir que le rugby à 13, de manière générale, n'a pas une bonne presse. Ça fait 40 ans qu'on trimballe. Je dis homme parce que je fais partie de ce monde-là, qu'on trimballe la finale de la Coupe de France, du Championnat de France qui avait duré 3 minutes. Et il y a toujours cette image de bagarre, de machin, de truc. Là, hier, le coup que ce match a été arrêté, dans l'incompréhension générale, l'arbitre a été bousculé, mais il n'y avait rien. Et voilà, tout le monde était un petit peu surpris et terriblement déçu.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Yves d'avoir fait cette interview. Merci à tous. L'émission se termine. Donc, je vous rappelle, 20h mercredi, le direct match donc, de 32e de finale de Coupe de France contre Fos-sur-Mer Pro A. Merci beaucoup Jean-Yves.
Avec
merci
plaisir.
Valérie. Donc, ouais. Rendez-vous mercredi. Et sinon, rendez-vous lundi prochain.
Lundi prochain avec le Motoball.
Avec le Motoball. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Allez, bonsoir.
RTVFM. Une radio, une identité, un territoire.